nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et mettez en eux le feu de votre amour. Vous voyez, votre Esprit Seigneur se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, bien chers amis, nous commençons aujourd'hui un nouveau traité, un des traités de la dernière partie de la Somme, à savoir le supplément, le traité sur l'extrême onction qui va couvrir les questions 29 à 30, 33. Donc, c'est un sacrement extrêmement important parce que c'est le sacrement qui est la dernière préparation que donne la Sainte Église, que donne le bon Dieu, pour l'âme qui va passer du temps à l'éternité, l'âme juste avant d'être jugée par le bon Dieu. C'est donc, j'irais la dernière planche de salut, littéralement, d'un catholique, avant la mort. Alors, pour éviter de devoir me répéter, je vais d'abord vous rappeler l'enseignement du catéchisme catholique sur l'extrême onction. C'est une page de Saint Pilice, c'est très court. Donc, voilà ce que dit Saint Pilice dans son catéchisme. L'extrême onction est le sacrement institué pour le soulagement spirituel et même corporel des malades en danger de mort. Le sacrement de l'extrême onction produit les effets suivants. Il augmente la grâce sanctifiante, donc c'est un sacrement des vivants, attention, contrairement à ce qu'on croit. Le sacrement de l'extrême onction n'est pas un sacrement des morts, un sacrement des vivants. Il ne peut être reçu que par quelqu'un qui est en état de grâce. Deuxièmement, il efface les péchés véniels et même les péchés mortels que le malade repentant ne pourrait plus confesser. Il enlève cette faiblesse et cette langueur pour le bien qui reste même après avoir obtenu le pardon des péchés. Il donne la force de supporter le mal avec patience, de résister aux tentations et de mourir saintement. Il aide aussi à recouvrer la santé du corps si c'est utile au salut de l'âme. Donc on doit recevoir l'extrême onction, dit Saint Pilice, quand la maladie est dangereuse et que le malade a reçu, si c'est possible, les sacrements de pénitence et d'Eucharistie. Même, il est bon de le recevoir quand on est encore en pleine connaissance et qu'on garde quelques espoirs de vie. Il ne faut pas attendre d'être dans le coma pour recevoir l'extrême onction. Il faut avoir un danger de mort, sinon le sacrement est invalide, on va expliquer. Mais il faut aussi, si possible, être encore capable de comprendre ce qui se passe. Il est bon de recevoir l'extrême onction quand on est encore en pleine connaissance et quelques espoirs de vie, parce que en la recevant avec de meilleures dispositions, on peut en retirer plus de fruits. Et encore parce que si pour le bien de l'âme, ce sacrement rend la santé du corps, c'est en secondant les forces de la nature et qu'il ne faut donc pas attendre que tout espoir soit perdu. N'oubliez pas, la règle de saint Thomas, la grâce ne détruit pas la nature mais elle élève. Les principales dispositions pour recevoir l'extrême onction sont d'abord être en état de grâce, je vous l'ai déjà dit, c'est un sacrement des vivants, avoir confiance dans l'efficacité du sacrement et à la miséricorde divine et se résigner à la volonté de Dieu. À la vue du prêtre, le malade doit éprouver des sentiments de reconnaissance envers Dieu pour les lui avoir envoyés. Il doit le recevoir volontiers, demander de lui-même, s'il le peut, les secours de la religion. Voilà. Donc, nous allons voir maintenant le texte de saint Thomas. Donc, je vous rappelle, question 29 à 33, le traité sur l'extrême onction, donc dans la dernière partie de la somme, à savoir le supplément. Alors, saint Thomas se pose d'abord la question de savoir si l'extrême onction est un sacrement. Je vous rappelle la définition du sacrement, signe visible d'une grâce invisible instituée par Dieu pour notre sanctification. Donc, saint Thomas le dit bien, les sacrements de l'Église remédient de façon suffisante aux défauts des hommes dans toutes les situations où ils se trouvent. Or, il n'y a pour ceux qui quittent cette vie d'autres secours que l'extrême onction, elle est donc un sacrement. Sacrement des mourants. Dernier sacrement qui est donné pour aider les gens à passer de l'autre côté, passer de ce monde à l'autre. Alors, voyons un petit peu ce que dit Saint Thomas. Donc, il précise que l'extrême onction est un sacrement, un seul sacrement. Pourquoi? Parce que le sacrement de l'extrême onction est un sacrement qui se donne en plusieurs onctions. On fait une onction sur chaque sens. Donc, pour certains pourraient se poser la question, s'il y a un seul sacrement ou différents sacrements, un pour chaque sens. Non, il y a un seul sacrement. Chacun des sacrements est dit un, pour autant que la pluralité des éléments qui le constituent est unifiée pour signifier ou causer une même chose. Ça cause la grâce. Ça signifie la grâce. Ce sont des signes extérieurs qui manifestent une grâce intérieure. Alors, est-ce que ce sacrement a été institué par le Christ? Donc, il est de foi que tous les sacrements de la loi nouvelle, les sept sacrements, ont été institués par le Christ lui-même. Cependant, saint Thomas nous dit que il faut suivre l'opinion, c'est pas de foi, ça, mais c'est l'opinion à suivre, dit saint Thomas, l'opinion qui a le plus de probabilité, que le Christ a institué par lui-même tous les sacrements, mais a laissé la charge aux apôtres d'en promulguer deux d'entre eux, l'extrême onction et la confirmation. Donc c'est le Christ qui a institué l'extrême onction, mais ce sont les apôtres qui l'ont promulgué après la montée au ciel de notre Seigneur Jésus-Christ, le jour de l'ascension, 40 jours après Pâques. Le Christ, voilà ce qu'il dit, le Christ a institué par lui-même tous les sacrements, mais il n'en a promulgué en personne que certains, ceux qui sont les plus difficiles à croire, laissant la charge aux apôtres d'en promulguer d'autres, comme l'extrême onction et la confirmation. Et il dit que cette opinion a la plus de probabilité parce que les sacrements appartiennent au fondement de la loi, en sorte qu'il revient au législateur même de les instituer. Donc ceci pour répondre aux modernistes qui disent très souvent que l'extrême onction a été inventée par les apôtres. C'est totalement faux. L'extrême onction vient directement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais ce sont les apôtres qui ont promulgué ce sacrement. Alors, l'huile d'olive est-elle la matière qui convient pour ce sacrement? Vous savez que le sacrement de la extrême onction, comme les autres sacrements, est passé à la casserole dans l'église de Vatican II, qui ont tout détruit. Ils ont détruit aussi le sacrement, évidemment, le sacrement de confirmation. Pensez, ils ne sont pas fous. Comme ils veulent la perte des âmes, il fallait absolument détruire le sacrement de l'extrême onction, qui est la dernière porte de salut avant la mort. Et donc, ils ont tout changé, ils ont modifié, dans le nouveau rituel, ils ont modifié et la matière, on n'est plus obligé d'utiliser de l'huile d'olive, n'importe quelle huile peut suffire. Ils ont changé également en partie la forme. Certains qu'ils ont changé aussi l'intention. C'est pour ça que ce sacrement est un sacrement d'extrême onction donné par l'Église moderne. Moi, je considère ça pratiquement invalide. Donc, si vous avez une grand-mère qui a reçu l'extrême onction de l'Église moderne avec les nouvelles huiles, ben, vous pouvez recommencer. Surtout si le prêtre qui a institué, qui a donné le sacrement à votre grand-mère est un prêtre qui a été ordonné après 68 et avec consacré, ordonné prêtre par un évêque qui lui-même a été institué évêque avec le nouveau rituel de 68, c'est pratiquement certain que c'est invalide. Donc faites recevoir de nouveau l'extrême onction par votre grand-mère, par un prêtre qui est vraiment catholique. Alors, l'huile d'olive est la matière qui convient pour ce sacrement. C'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que à cause du symbole de l'huile d'olive. L'huile d'olive, surtout chez les anciens, avait trois symboles essentiels. D'abord, elle éclaire. Utiliser l'huile d'olive pour alimenter les lampes à huile. Elle éclaire, elle réchauffe. On peut se chauffer avec l'huile. Et elle guérit. Les anciens faisaient souvent des onctions sur les muscles. Un muscle fatigué était rafraîchi en quelque sorte par les massages avec l'huile d'olive. Donc on parle d'huile au sens propre, on parle d'huile que pour l'huile d'olive. Quand les anciens parlaient d'huile d'olive, d'huile c'était toujours l'huile d'olive. C'est donc cette huile qui est la matière de l'extrême onction. Et un autre symbole, c'est que l'huile d'olive représente également la pureté de conscience. La pureté de conscience dont on a besoin, laquelle est signifiée par l'huile. Alors, cette huile doit être consacrée par l'évêque. L'évêque seul a le pouvoir de consacrer les saintes huiles. Vous savez qu'il le fait de façon très solennelle le jeudi saint au matin, on appelle la messe des saintes huiles. Il y a une consécration des huiles, plus exactement une consécration du Saint-Crème et une Bénédiction de l'huile des catéchumènes et de l'huile des infirmes. C'est cette huile des infirmes qui sera utilisée pour donner le sacrement de l'extrême onction. Puisque ce sacrement consiste en une certaine onction, il faut que sa matière soit aussi consacrée. Donc saint Thomas parle d'une consécration. Bon, strictement parlant, on parle de consécration au niveau des saintes huiles pour le Saint-Crème. Mais en fait, la bénédiction des autres saintes huiles, l'huile des catéchumènes et l'huile des malades, saint Thomas dit que c'est aussi une consécration. Puisque ce sacrement consiste en une certaine onction, il faut que cette matière soit consacrée. Toute l'efficacité des sacrements, dit-il, procède du Christ, de telle sorte que ceux dont il a lui-même fait usage tiennent leur efficacité de cet usage même qu'il en fait. Donc la plénitude de grâce qui est conférée, qui a pour effet non seulement d'ôter le péché, mais aussi les restes du péché et la maladie corporelle. Donc l'effet corporel du sacrement, à savoir la guérison, n'est pas causée par les propriétés naturelles de la matière. C'est Dieu, si vous voulez, qui va utiliser une matière préexistante pour donner des effets surnaturels, la grâce. Alors, continuons avec Saint Thomas. On est dans la question 29, article 6. Faut-il que la matière de ce sacrement soit consacrée par l'évêque? Bon. Est-ce qu'un prêtre a le pouvoir de venir de consacrer les saintes huiles? La réponse est non, seul l'évêque peut le faire. Bon, voilà ce que dit saint Thomas. Le ministre d'un sacrement ne produit pas l'effet de ce sacrement par sa vertu propre, à titre d'agent principal, mais par l'efficacité du sacrement même qu'il dispense. Donc le prêtre est ministre du sacrement, mais il n'est pas la cause première du sacrement, cause efficiente, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, mais qui va utiliser l'évêque. L'évêque est celui qui a le pouvoir de consacrer les saintes huiles. Cette efficacité procède d'abord du Christ, d'où elle descend par ordre dans les autres, à savoir dans le peuple, par l'intermédiaire des ministres qui dispensent les sacrements, et dans les ministres inférieurs, par celui des ministres supérieurs qui sanctifient la lumière. Donc la grâce passe du haut vers le bas. C'est pourquoi dans tous les sacrements qui réclament une matière sanctifiée, la première sanctification de la matière se fait par l'évêque, tandis que son usage est parfait par le prêtre. Alors y a-t-il une forme particulière pour ce sacrement? La forme, c'est la parole utilisée. Donc le prêtre va utiliser la même formule, mais il va l'adapter à chaque sens qu'il va oindre avec l'huile des malades, en disant que par cette sainte onction et sa pieuse miséricorde, le Seigneur vous obtient le pardon des fautes commises avec les yeux, avec les oreilles, avec le nez, avec la bouche, avec les pieds et avec les mains. Donc, le sacrement de l'extrême onction est extrêmement important pour ça. Les modernistes vont vous dire qu'il n'y a rien dans les évangiles sur le sacrement de l'extrême onction. Il y a quand même deux références importantes, en plus il y a tout l'enseignement de l'Église derrière. En Saint Marc chapitre 6, il est dit « Les apôtres chassaient beaucoup de démons, ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. » Et c'est surtout le texte de Saint Jacques qui est important. L'épître de Saint Jacques, au chapitre 5, versets 14 et 15, « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les prêtres de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le rétablira. S'il a commis des péchés, lui seront pardonnés. » Donc, les prêtres ne sont pas des inventeurs du sacrement de l'extrême onction. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a institué ce sacrement, je vous l'ai déjà expliqué selon saint Thomas, promulgué par les apôtres. Donc, il y a une forme. Puisque l'extrême onction est un sacrement de la loi nouvelle, comme tous les sacrements pour être valides, trois choses nécessaires, donc la matière, la forme et l'intention. Donc il faut la matière, c'est la chose utilisée, c'est l'huile des infirmes. La forme, je viens de vous la donner, une parole utilisée, et l'intention, c'est l'intention de faire ce que veut faire l'Église. Donc il doit y avoir dans tous les sacrements de la loi nouvelle quelque chose qui produit ce qu'il signifie, des réalités et des paroles. Alors avançons avec saint Thomas d'Aquin, donc je vous donne son enseignement. Donc là on en est à la question 29, article 8. La forme de ce sacrement doit-elle s'exprimer dans une formule indicative et non dans une formule déprécative? Voilà ce que dit saint Thomas. Que par cette onction et sa très, donc là, il dit que la forme, que par cette sainte onction, sa très précieuse miséricorde, le Seigneur vous pardonne tous les péchés que vous avez commis par les différents sens. Donc cette forme consiste en une formule déprécative. Hein, on prie. Formule de prière. Précaré, c'est prier en latin. Hein. L'extrême onction n'a pas d'effet qui suive nécessairement l'action du ministre lorsqu'a été accompli exactement tout ce qui est requis par le sacrement, comme le caractère dans le baptême et la confirmation, la transsubstantiation dans la Sainte Eucharistie, la rémission des péchés dans la pénitence, sous réserve qu'il y ait contrition, celle-ci étant de l'essence du sacrement de pénitence, alors qu'elle n'est pas de l'essence de l'extrême onction. C'est pourquoi, dans l'extrême onction, il ne peut y avoir de formule au mode indicatif comme dans tous les autres sacrements nommés. Donc, ça va dépendre aussi du degré, évidemment, de charité de la personne qui reçoit le sacrement d'extrême onction. C'est donc une formule qu'on appelle déprécative. Article 9 de cette même question 29, la formule dont on vient de parler est-elle la forme qui convient pour ce sacrement? La formule dont on a parlé, que je vous l'ai déjà donnée, est bien la forme qui convient à ce sacrement, car elle fait mention à la fois du sacrement, quand on dit par cette sainte onction, donc pour marquer qu'il y a une onction sur le sens en question, de ce qui agit dans le sacrement, à savoir la divine miséricorde, et son effet, la rémission des péchés. Nous passons à la question 30. L'effet du sacrement de l'extrême onction. Alors, l'extrême onction se pose d'abord comme question de saint Thomas d'Aquin, procure-t-elle la rémission des péchés? Alors, saint Thomas va expliquer un certain nombre de choses, on va le suivre. Donc il explique d'abord qu'il y a dans le péché trois choses, soit la tâche de l'âme, l'obligation de la peine et défectuosité qui sont les restes du péché, même après, une fois que le péché est pardonné. Donc voilà ce qu'il va dire. Tout sacrement de la loi nouvelle confère la grâce. Or, la grâce produit en nous la rémission des péchés. Donc, puisqu'elle est un sacrement de la loi nouvelle, l'extrême onction procure aussi la rémission des péchés. Mais de façon accidentelle. Pourquoi? C'est-à-dire que, rappelez-vous que c'est un sacrement des vivants. C'est-à-dire que c'est un sacrement qui doit être donné, normalement donné à quelqu'un qui est en état de grâce, donc qui n'a plus de péché sur la conscience. Cependant, si une personne a encore des péchés mortels sur la conscience sans qu'elle le sache, parce qu'elle a oublié un péché mortel, ou parce qu'elle n'a pas pu tout simplement se confesser, et qu'elle croit être confessée, mais elle n'a pas été, et bien dans ce cas-là, accidentellement, le sacrement de l'extrême onction va effacer tous les péchés qui peuvent exister encore dans l'âme. Mais en soi, c'est un sacrement des vivants, donc normalement, l'ordre dans lequel on donne les sacrements, c'est d'abord la confession, sacrement de pénitence, puis la Sainte Eucharistie comme viatique, et enfin, on donne l'extrême onction. Donc, le sacrement peut être considéré comme une sorte, dit saint Thomas, de guérison, de cure spirituelle. Ensuite, il explique, l'extrême onction n'est donc pas donnée contre les défauts qui détruisent cette vie, c'est-à-dire contre le péché originel et le péché mortel, mais contre ceux qui affaiblissent spirituellement l'homme en sorte qu'il n'a plus toute la vigueur nécessaire pour accomplir les actes de la vie, de la grâce et de la gloire. Ces défauts qui ne sont pas autre chose qu'une certaine faiblesse ou débilité, que laisse en nous après lui le péché tant actuel qu'originel, c'est contre cette faiblesse que l'homme se trouve affermi par l'extrême onction. Donc l'extrême onction va donner une force spéciale pour permettre à l'âme d'affronter les dernières tentations du démon avant la mort. Donc il y a déjà eu la réception du sacrement de pénitence pour enlever tous les péchés, il y a eu la réception de la Sainte Eucharistie, mais il faut en plus quelque chose pour achever de, si vous voulez, de donner la force aux combattants qui arrivent au but. Comme cet effet fortifiant est produit par la grâce, que la grâce ne peut se trouver associée au péché, il s'ensuit que si ce sacrement trouve en face de lui un péché mortel ou véniel, il l'ôte d'abord par voie de conséquence. Donc c'est accidentel. C'est pas en soi le but du sacrement de l'extrême onction. Normalement, on n'a pas le droit de donner l'extrême onction à quelqu'un qui ne s'est pas confessé. Donc je répète, si ce sacrement trouve en face de lui un péché mortel ou véniel, il l'ôte par voie de conséquence quant à la culpe si de moins celui qui le reçoit n'y met point d'empêchement. Ce qui a lieu aussi pour la Sainte Eucharistie, la confirmation. C'est la même chose avec la confirmation, la Sainte Eucharistie. Ils sont aussi des sacrements des vivants. Normalement, qu'on reçoit un état de péché, un état de grâce, eh bien, si quelqu'un reçoit accidentellement la Sainte Eucharistie ou la confirmation, un état de péché mortel, il ignore qu'il est un état de péché mortel, eh bien, la Sainte Eucharistie, même la confirmation, dit Saint Thomas, peut à ce moment-là effacer les péchés qui sont dans l'âme. Mais c'est une action accidentelle, ce n'est pas le but du sacrement. L'extrême onction ne détruit pas toujours le péché, pour la raison qu'elle n'en trouve pas toujours, mais elle subvient toujours à cet état de faiblesse que quelques-uns appellent les restes du péché. Donc, les dernières conséquences du péché, si vous voulez, une certaine faiblesse qui vient du péché, même déjà pardonné, le péché pardonné, mais il reste des conséquences du péché. Un peu comme, imaginez, une grande blessure, vous avez été coupé avec un couteau jusqu'à l'os, le médecin va venir, il va recoudre la plaie, eh bien, il reste une cicatrice, si vous voulez. Eh bien, l'extrême onction aide à traiter cette dernière cicatrice. Donc, l'effet principal de ce sacrement est la rémission des péchés quant au reste du péché. Et aussi, par voie de conséquence, quant à la coupe, s'il en rencontre une. Donc, en soi, le sacrement de l'extrême onction, encore une fois, nous est donné pour enlever les conséquences du péché, c'est-à-dire enlever surtout les peines du purgatoire. Donc, le but du sacrement de pénitence, c'est d'enlever les peines du purgatoire. Pardon, excusez-moi. Le but du sacrement de l'extrême onction est d'enlever les conséquences des péchés déjà pardonnés. Vous me pardonnez si parfois j'utilise un mot pour un autre, ça m'arrive, et parfois je ne m'en rends pas compte. Donc si vous entendez dans un cours que je donne quelque chose qui n'est pas du tout logique, c'est qu'en général j'ai fait une faute de mots. Parfois je ne m'en rends pas compte, c'est ça le drame. Ça, j'ai dû recommencer ce cours que j'avais commencé, parce que j'avais complètement mélangé le sacrement de confirmation, le sacrement de l'extrême onction. Et donc j'ai repris le cours pour ne pas enregistrer des erreurs. Alors, dans les restes du péché, qu'est-ce que c'est que ces restes du péché? Il faut voir, dit Saint Thomas, il ne faut pas avoir des dispositions laissées par des actes qui sont des habitus commençants, mais une certaine faiblesse spirituelle inhérente à l'âme elle-même, cause du péché originel. Conséquence du péché originel. Cette faiblesse vienne à être supprimée, même si les habitudes ou dispositions précédentes demeurent, l'âme ne pourra plus être inclinée au péché comme auparavant. Donc ça va détruire, si vous voulez, l'extrême onction va détruire dans l'âme une certaine inclination au péché. C'est pour ça qu'il faut que l'âme, avant de recevoir l'extrême onction, soit purifiée du péché pour pouvoir utiliser justement cette nouvelle inclination à éviter le péché que va lui donner l'extrême onction. Article 2 de la question 30, la guérison corporelle, la guérison du corps, la guérison physique, est-elle un effet de ce sacrement? Alors la réponse est oui, si c'est voulu par le bon Dieu. Cet acte donc a pour effet la guérison du corps, mais pas systématiquement, c'est pas toujours voulu par le bon Dieu. L'extrême onction ne procure, dit Saint Thomas, ne procure pas la guérison corporelle par le fait des propriétés naturelles de la matière employée, mais par la vertu divine qui opère toujours de façon raisonnable. C'est-à-dire que Dieu va accomplir une guérison physique si c'est nécessaire pour le salut de l'âme. Ce n'est pas toujours nécessaire. Je vais donner un exemple. Je l'ai peut-être déjà donné dans une autre conférence, mais c'est un exemple magnifique. Ce n'est pas moi qui était le prêtre dans cette histoire, mais je l'ai entendu de la bouche de ce prêtre. Donc, quand j'étais à Strasbourg, donc nous avons reçu une fois un coup de téléphone d'une fidèle qu'on connaissait et qui était en train de mourir à l'hôpital, donc elle a demandé l'extrême onction. Bon, elle était très bien disposée, elle venait à la messe régulièrement, elle se confessait régulièrement, elle priait, elle faisait pénitence, donc elle reçoit avec beaucoup de dévotion, bon, des meilleures dispositions au sacrement de l'extrême onction qu'un prêtre, à l'époque j'étais dans la fraternité, un prêtre de la fraternité vient lui donner. Elle est toute contente, elle dit, voilà, maintenant je peux mourir en paix. Donc elle reçoit l'extrême onction. Le prêtre la quitte et rentre au prieuré de l'Étoile du Matin à l'époque. Et le lendemain matin, on reçoit un coup de téléphone furieux de la dame en question. Elle n'est pas contente du tout, parce qu'elle a dit, voilà, j'étais parfaitement préparé à mourir, tout allait bien, j'allais mourir, passer devant le bon Dieu après l'extrême onction. Figurez-vous que l'extrême onction m'a complètement soigné, alors je devais mourir. Le médecin vient me voir ce matin en me disant qu'il ne comprend rien, mais que je suis devenue fraîche comme un gardon, que je peux maintenant quitter l'hôpital et que je suis bonne pour 20 ans de plus. Elle était furieuse. Alors, le prêtre a éclaté de rire, mais ça arrive parfois. Parfois, ça arrive que le bon Dieu utilise l'extrême onction aussi pour guérir les corps, si c'est nécessaire, et plus utile pour celui de là. Mais la guérison corporelle, dit saint Thomas, n'est pas l'effet principal de ce sacrement. Donc, cette guérison corporelle va arriver si c'est utile pour la guérison de l'âme, dit saint Thomas. Alors, l'extrême onction donne-t-il un caractère? Un caractère, c'est une marque indélébile qui est placée sur l'âme par le sacrement. Alors, je vous rappelle, vous connaissez votre catéchisme, qu'il y a trois sacrements qui donnent un caractère, en fait, le baptême, la confirmation et l'ordre. Le baptême donne le caractère d'enfant de Dieu. Donc, un bébé qui n'est pas baptisé n'est pas enfant de Dieu, quoi qu'on dise, que Bergoglio dise le contraire. Le sacrement de confirmation donne le caractère de soldat de Dieu, et le sacrement d'extrême onction, le sacrement de l'ordre, pardon, donne le caractère de ministre de Dieu. Le sacrement de l'extrême onction ne donne pas en soi un caractère. Et donc, il peut être réitéré si c'est nécessaire. Si la personne sort de sa maladie, retombe dans une autre maladie ou même la même, il peut recevoir de nouveau l'extrême onction. Voilà ce que dit saint Thomas. On ne réitère jamais un sacrement qui a pris un caractère. Or, l'extrême onction peut être réitérée, comme on le dira, c'est donc qu'elle n'a, elle prime aucun caractère. Donc, on ne donne pas un caractère, on peut la recevoir plusieurs fois. Alors, on avance avec la question 31. Le ministre du sacrement d'extrême onction. Alors, s'il y a trois questions ici, savoir qui peut donner l'extrême onction. Alors, si un laïc peut par exemple donner l'extrême onction, si un diacre peut le faire, si l'évêque seul peut conférer ce sacrement. Donc, première question que va se poser saint Thomas, c'est la question 31 du supplément, l'article 1. Est-ce qu'un laïc peut conférer ce sacrement? Alors, saint Thomas explique que ce sacrement procure directement la rémission des péchés. Or, ceci n'est pas au pouvoir des laïcs. Qui rappelle donc la tradition de l'Église que les laïcs ne peuvent pas donner l'extrême onction. Si un laïc donnait l'extrême onction, ce serait absolument invalide. Alors, deuxième article, l'article 2, est-ce qu'un diacre, qui n'est pas encore prêtre, c'est un ministre sacré, mais il n'est pas encore prêtre, est-ce qu'un diacre a le pouvoir de conférer ce sacrement? Saint Jacques parle des presbytres de l'Église, qu'il appelle les presbytres de l'Église. Les presbytres, c'est les prêtres. Le diacre a seulement le pouvoir de purifier, non celui d'illuminer. Donc, puis donc, que l'illumination est produite par la grâce, le diacre ne peut donner en vertu de son office aucun des sacrements qui confèrent la grâce. C'est pas exactement vrai dans le sens que, par exemple, le baptême confère une grâce, et le baptême peut être conféré même par un laïc. Il faut comprendre dans quel sens saint Thomas le dit. Alors, on avance. Est-ce que l'évêque seul peut conférer ce sacrement? Donc saint Thomas répond négativement. Il cite saint Jacques, au témoignage de saint Jacques, dit-il, le ministre de ce sacrement doit être appelé auprès de celui qui est dans le cas de le recevoir. Mais un évêque ne peut aller à tous les malades de son diocèse. C'est donc qu'il n'est pas le seul à pouvoir conférer ce sacrement. La fonction de l'évêque consiste à rendre parfait, comme celle du prêtre consiste à illuminer. Donc le prêtre est celui qui donne le sacrement de pénitence. Bien sûr, un évêque pose le sacrement de Excusez-moi, le sacrement de l'extrême onction, bien sûr, un évêque peut aussi donner ce sacrement de l'extrême onction. Alors, à qui ce sacrement doit-il être conféré? Et en quelle partie du corps? Donc, il y a sept articles dans cette question numéro 32. Doit-on donner aussi ce sacrement à ceux qui se portent bien? C'est ce qu'ils font dans l'Église de Vatican II. Une fois par mois, une fois par an, ils font une grande cérémonie. Tous ceux qui ont plus de 60 ans peuvent venir recevoir l'extrême onction, même y compris ceux qui ne sont pas malades. C'est purement et simplement invalide. Pour ceux qui sont pas malades, puisque ce sacrement ne peut être donné qu'à ceux qui sont proches de la mort, donc mourants. On n'a même pas le droit, strictement parlant, de donner l'extrême onction, par exemple, à un malade, pas, je dirais un soldat qui part à la guerre, même s'il y a une forte chance qu'il soit tué pendant la guerre. Hein, parce qu'il faut un risque certain de mort, ou un risque relatif de mort, mais de mort naturelle, à cause d'une maladie, par exemple. Hein. Ce sacrement, en fait, dit saint Thomas, ne convient qu'aux malades. Il ne peut pas être donc donné à quelqu'un qui n'est pas malade. Alors, ce sacrement doit-il être donné en n'importe quelle maladie? Donc, j'ai déjà expliqué, ce sacrement ne peut être donné qu'à une maladie, que dans le cas d'une maladie qui entraîne peut-être la mort, même si on n'est pas certain. Donc, il y a un risque certain de mort, on peut donner extrême onction. Quand je suis appelé à l'hôpital pour donner extrême onction, et donc les personnes, la famille m'appelle, monsieur Lévesque, est-ce que vous pourriez aller voir notre grand-mère qui est en train de mourir à l'hôpital? Enfin, qui est à l'hôpital, donc elle voudrait recevoir l'extrême onction. Première chose que je fais en général, je vais voir l'infirmière ou même le médecin si je peux. Je lui dis, est-ce que pour cette personne qui veut recevoir l'extrême onction, est-ce qu'il y a vraiment un risque de mort? Parfois, l'infirmière me dit, bon non, je ne l'avais pas du tout. Elle est vieille, elle est âgée, le corps est usé, mais il n'y a pas actuellement de risque de mort. Mais je n'ai pas le droit de donner l'extrême onction. Bon, je vais confesser, donner la communion, mais je ne donne pas l'extrême onction. Par contre, si l'infirmière me dit, monsieur l'abbé, oui, vous devriez quand même donner l'extrême onction parce qu'il y a vraiment un risque de mort, elle peut durer encore quelques mois, peut-être même quelques années, mais enfin, elle peut vraiment mourir un peu n'importe quand maintenant à cause de l'usure de son corps. Dans ce cas-là, on donne l'extrême onction. On doit donner l'extrême onction qu'aux malades qui sont dans la condition de ceux qui s'en vont de ce monde, dit saint Thomas, atteints qu'ils sont d'une maladie mortelle ou en péril de mort à cause de cette maladie. Alors, doit-on donner ce sacrement aux fous et à ceux qui sont dépourvus de raison, ceux qui n'ont pas l'usage de la raison? Alors voilà ce que va répondre saint Thomas. On ne doit pas le conférer, ce sacrement, à ceux qui sont incapables de le recevoir en connaissance de cause avec dévotion, et surtout pas aux fous ou aux démons qui pourraient manquer de révérence au sacrement par quelque incongruité, sauf s'ils ont des moments de lucidité où ils peuvent comprendre ce qu'ils reçoivent. Alors le sacrement peut leur être donné. Bien souvent, les gens qui sont atteints de maladies psychiatriques graves ont des crises de folie. Ils n'agissent pas comme des fous tout le temps. Donc, s'ils sont dans un moment où ils sont calmes, ils peuvent recevoir ce sacrement. S'il y a un danger de mort, bien sûr. Alors, peut-on donner le sacrement de l'extrême onction aux enfants? Alors, voilà ce que dit saint Thomas. La forme de l'extrême onction ne s'applique pas aux enfants. Là, quand il parle d'enfants ici, il parle vraiment des enfants avant l'âge de raison. La forme de l'extrême onction ne s'applique pas aux enfants puisqu'ils n'ont péché ni par la vue, ni par l'ouïe, ni par aucun des sens. Ainsi qu'on le dit dans la prière qui est la forme du sacrement. Celui-ci, donc, ne doit pas leur être donné. N'oubliez pas que le sacrement de l'extrême onction est un sacrement qui a pour but d'ôter la peine temporelle due au péché. Mais si un enfant par quoi il péché encore, parce qu'il y a encore l'âge de raison, péché grave au moins, il n'y a pas l'âge de raison, eh bien, il ne doit pas recevoir l'extrême onction, puisqu'il n'y a pas de peine du purgatoire pour des péchés qu'il n'a pas commis. D'accord? Faut-il, dans ce sacrement, faire des onctions sur tout le corps? Alors, voilà ce que dit saint Thomas. Le rite universel de l'Église veut que l'infirme ne soit oint qu'en certaines parties du corps. Donc, il va y avoir des onctions sur les parties du corps qui correspondent au sens. Donc, il va y avoir une... Donc, il va donner, faire d'abord une onction sur d'abord les yeux, pour réparer les conséquences des péchés déjà pardonnés, mais commis par les yeux. Dieu sait si on pêche par les yeux. Donc il y a une peine temporelle due à ces péchés, même déjà pardonnés par le sacrement de pénitence. Eh bien, le prêtre va d'abord faire une onction sur les yeux, puis sur les oreilles, pour cette fois-ci effacer les peines temporelles des péchés commis avec les oreilles, puis sur le nez, les péchés qu'on a commis, non pas les péchés, mais les conséquences des péchés commis avec le nez, puis sur la bouche, pour réparer les conséquences des péchés commis avec la bouche, toutes les mensonges, les calomnies, les médisances, etc., jugement téméraire, sur les mains, Pareil, pour réparer les peines temporelles, la peine temporelle due au péché commis avec les mains, péché qui ont été pardonnés auparavant, mais il faut réparer les conséquences. Et enfin, les pieds, pareil, pour réparer les peines temporelles dues à tous les péchés qu'on a commis avec les pieds en allant dans un endroit où il ne faut pas. Bon. Alors, il y avait même une autre onction qui se faisait sur les reins. Les reins, traditionnellement, c'est le siège des péchés d'impureté. Et donc, c'est pour réparer toutes les fautes d'impureté. Pas les fautes d'impureté, mais les peines temporelles des péchés d'impureté déjà pardonnés. Cependant, cette dernière onction, dans la pratique, elle n'est jamais faite. Elle n'est jamais faite, elle n'est d'ailleurs même pas sur le rituel que j'ai, qui date depuis 11, elle n'est pas dessus. Elle n'est jamais faite pour les femmes, pour des raisons pratiques, et des raisons esthétiques, et des raisons de décence, si vous voulez. Mais cette onction, à ma connaissance, n'existe plus depuis bien longtemps. Elle n'est plus faite depuis bien longtemps. Donc, l'infirme est loin sur certaines parties du corps. Il faut donc que les onctions soient faites en ces parties même du corps où les diverses puissances ont leur siège. On n'applique pas toujours le remède là où est le mal, mais plus convenablement à la racine du mal. Donc. Alors, a-t-on fixé convenablement, se demande Saint Thomas, les parties du corps sur lesquelles les onctions doivent être faites. Donc, il va répondre en expliquant qu'il y a en nous trois principes d'action. L'un qui a pour fonction de diriger, à savoir la puissance cognitive, un deuxième qui commande, la puissance affective, et un troisième enfin qui exécute la puissance motrice. Hein? Donc, comme l'onction doit être appliquée là où est en nous l'origine première du péché, c'est-à-dire en conséquence sur les organes des sens qui se font les onctions. C'est en conséquence sur les organes, je reprends. Comme l'onction doit être appliquée là où est en nous l'origine première du péché, c'est en conséquence sur les organes des sens que se font les onctions. C'est-à-dire les yeux, pour la vue, les oreilles pour l'ouïe, les narines pour l'odorat, sur la bouche pour le goût, sur les mains pour le tact, lequel a son siège principal dans la chair des doigts. Donc, le prêtre va faire une onction sur tous ses organes, parfois des organes doubles, par exemple sur les deux yeux, bien sûr, parce qu'il y a deux yeux, les deux oreilles, les deux mains ou les deux pieds. Hein? Pour les mains, il va faire l'onction à l'intérieur sur les paumes, sauf si le malade qui reçoit l'extrême onction est un prêtre. Comme il a déjà eu les mains consacrées, la paume de ses mains consacrées par l'huile des catéchumènes le jour de son ordination sacerdotale, à ce moment-là, on fait l'onction sur le dos de la main et pas sur la paume de la main. Article 7. Ceux qui sont mutilés doivent-ils recevoir les onctions qui correspondent aux parties mutilées de leur corps ? On va dire c'est un petit peu des détails, mais saint Thomas va jusqu'au fond des choses. Voilà. Alors voilà ce qu'il répond. Un défaut du corps n'est pas un empêchement pour un autre sacrement. Il ne doit donc pas être en être un ici. Or, toutes les onctions sont de nécessité pour ce corps. Par conséquent, il faut les faire toutes au mutilé. Donc on fait à ce moment-là l'onction sur une partie proche. Par exemple, imaginez quelqu'un qui a perdu une jambe, donc il ne peut pas recevoir évidemment la deuxième onction sur le pied parce qu'il n'a plus de jambe. Donc on va faire l'onction sur le moignon du membre qui reste, le moignon qui reste sur le membre. Question 33, donc dernière question de ce traité sur l'extrême onction, la réitération de l'extrême onction. Donc saint Thomas va se poser la question de savoir si ce sacrement doit être réitéré. Alors, encore une fois, il faut bien suivre les traditions de l'Église. On a parfois des difficultés avec certains fidèles qui insistent pour qu'on donne l'extrême onction régulièrement. J'ai eu des cas fidèles qui voulaient recevoir l'extrême onction pratiquement tous les jours parce qu'ils étaient malades. Ils étaient à l'hôpital, ils me disaient, je vais recevoir l'extrême onction tous les jours. Ce n'est pas la coutume de l'Église de donner l'extrême onction tous les jours. On la donne une fois. Et si la personne retrouve la santé puis retombe malade même dans la même maladie, il peut à ce moment-là recevoir l'extrême onction de nouveau. Hein. Donc le reste sacrement peut être réitéré, mais il faut quand même qu'il y ait une raison. Alors voilà ce qu'il dit. Ce sacrement est une sorte de traitement spirituel administré par mode de soins corporels. Or, réitère de tels soins, par conséquent, ce sacrement lui aussi doit être retiré. Cependant, encore une fois, dans l'esprit de l'Église, je pense qu'il n'est pas dans l'esprit de l'Église de donner le sacrement de l'extrême onction tous les jours. Ce n'est pas du tout ce que fait l'Église. Non. Puis donc, la santé du corps et de l'âme, qui sont les effets de l'extrême onction, peuvent être perdus à part avoir été produits par le sacrement. Il faut conclure que l'extrême onction peut être réitérée sans qu'il soit fait injure, à condition, encore une fois, qu'il y ait une nouvelle maladie, qu'il y ait une raison. Bon. Par exemple, j'accepterais de donner l'extrême onction plusieurs fois à quelqu'un qui restait vraiment très longtemps à l'hôpital. Une personne, par exemple, qui passe, je sais pas, 3 mois, par exemple, à l'hôpital, il a reçu une première fois l'extrême onction en arrivant à l'hôpital, il me demande de nouveau l'extrême onction au bout de 3 mois. Bon, je crois que dans un cas comme ça, j'accepterais de redonner l'extrême onction par sécurité, si vous voulez. Pourquoi? Parce que, c'est toujours pareil, l'extrême onction en arrivant à l'hôpital a enlevé, j'espère, les peines temporelles des péchés qui venaient de confesser avant au début de son séjour à l'hôpital. Mais s'il reste 3 mois à l'hôpital, bon, il a commis même des péchés à l'hôpital, sans doute que des péchés vénels, mais il a quand même commis des péchés. Donc il y a une peine temporelle encore à éliminer. Il faut de nouveau éliminer cette peine temporelle. Donc saint Thomas se pose la question, article 2, doit-on réitérer ce sacrement au cours d'une même maladie, hein? Alors, tout ce que je viens de vous dire est toujours vrai. Cependant, voilà l'explication que donne saint Thomas. Ce sacrement n'a pas rapport seulement au genre de la maladie, mais à sa gravité, vu qu'il ne peut être donné qu'à ceux que l'on estime être proches de la mort. Bon. Mais certaines maladies ne sont pas de longue durée. Que l'on vienne en ce cas à donner l'extrême onction lorsqu'il y a danger de mort, le malade qui est en cet état ne pourra en sortir que par guérison. Il n'y a dans ce cas-là pas lieu de réitérer le sacrement. Mais s'il y a une récidive du mal, une rechute si vous voulez, ce sera en réalité une autre maladie pour laquelle on pourra de nouveau procéder à une onction. Donc si la personne va mieux de nouveau, puis de nouveau rechute malheureusement, on peut redonner l'extrême onction. Donc supposez maintenant que le malade arrive à sortir de cet état tout en conservant la même infirmité et qu'ultérieurement il soit de nouveau en danger de mort, on peut de nouveau l'extrémiser, car on se trouve en une autre phase de la maladie, bien qu'absolument parlant, ce ne soit pas une autre maladie. Donc s'il y a une autre phase de danger de mort, c'est-à-dire une rechute, on peut donner l'extrême onction. Donc le sacrement de l'extrême onction, le rituel du sacrement de l'extrême onction est très précis. Il est donné dans le rituel que tous les prêtres ont toujours avec eux. J'ai toujours un rituel dans ma voiture, un rituel dans mon bureau bien sûr. Et tout est expliqué dans ce rituel avec toutes les rubriques. Donc encore une fois, le sacrement de l'extrême onction est en principe un sacrement qu'on reçoit en état de grâce, donc après le sacrement de pénitence et le sacrement de la Sainte Eucharistie, surtout reçu en viatique. Alors, je vais vous détailler un petit peu certaines de ces prières, que vous connaissez un petit peu comment se passe l'extrême onction. Donc, le prêtre fait d'abord l'aspergès. Il va bénir le malade, bénir la pièce dans laquelle est le malade. Et ensuite, il y a toute une série de prières, donc si vous les avez sur votre missel, lisez-les, elles sont splendides. Donc, puisque j'arrive déjà à la fin de ce traité, qu'il me reste un petit peu de temps, je voudrais vous lire certaines de ces magnifiques prières de l'extrême onction. Vous les avez sur votre missel, si vous avez un missel bien complet, tout est dans le missel. Je vous donne certaines de ces prières qui sont splendides. Voilà la première prière qu'il donne, qu'il va dire. Seigneur Jésus-Christ, faites entrer dans cette maison, sur les pas de votre humble ministre, l'éternelle félicité, la divine prospérité, la joie pure, la charité féconde, la santé inaltérable, et que les démons s'enfuient d'ici et n'osent plus approcher. Que les anges de la paix y accourent, et que toute maligne discorde en soit à jamais bannie. Faites éclater la grandeur de votre nom sacré, et bénissez notre ministère, Sanctifiez notre humble entrée dans ce lieu, vous qui êtes la sainteté même et la miséricorde et qui demeurez immuable avec le Père et le Saint-Esprit. Ensuite, le prêtre dit, prions et supplions notre Seigneur Jésus-Christ de combler de ses bénédictions cette maison et tous ceux qui l'habitent. Qu'il renvoie son ange pour les garder avec soin, qu'il les attache à son service et leur fasse considérer les merveilles de sa loi, qu'il éloigne de toutes les puissances ennemies, qu'il les délivre de tout le trouble et de toute erreur, et qu'il daigne les conserver sains et saufs dans cette demeure, lui qui vit et règne Dieu avec le Père et le Saint-Esprit. Donc, ensuite, il récite le Confiteor, toujours en. C'est une prière qu'on lit pratiquement chaque fois avant de donner les sacrements. On récite le Confiteor complet. Et puis il va dire, en donnant une bénédiction trois fois, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que tout pouvoir du démon sur vous cesse par l'imposition de nos mains et par l'invocation de la glorieuse Sainte Mère de Dieu, la Sainte Vierge, de son illustre épouse Saint Joseph et de tous les saints anges, archanges, patriarches, prophètes, apôtres, martyrs, confesseurs et vierges. Et de tous les saints ensemble. Ensuite, il va donner la formule, je vous l'ai déjà donnée, par cette sainte onction et par sa très clémente miséricorde, que le Seigneur vous pardonne les fautes que vous avez commises par la vue, l'ouïe, l'odorat, la bouche, les mains, les pieds. Il répète la formule pour chaque sens. En cas d'urgence, on arrive, qu'on pense, oulala, le malade est vraiment très très au bord de la mort, il risque de mourir avant. On fait tout de suite une onction, en général on fait une onction sur le front en disant que c'est par cette sainte onction que le Seigneur vous pardonne toutes les fautes que vous avez commises. Et on fait toujours par prudence. Et à la fin, voilà les prières de la fin qui sont si très belles. Seigneur Dieu, qui avait dit par la bouche de votre apôtre Saint Jacques, quelqu'un d'entre vous est-il malade? Qu'il fasse venir les prêtres de l'Église. Ils prieront sur lui, en loignant avec l'huile sainte, et cette prière, faite avec foi, sauvera le malade, et le Seigneur le soulagera, et s'il est coupable des péchés, il en obtiendra la rémission. Guérissez, ô notre Rédempteur, nous vous en supplions par la grâce du Saint-Esprit, les infirmités de ce malade. Guérissez ses blessures, pardonnez-lui ses péchés, faites disparaître toutes ses infirmités du corps et de l'âme, et par votre miséricorde, rendez-lui pleinement la santé spirituelle et corporelle, afin que, rétabli par un effet de votre bonté, il puisse reprendre l'accomplissement de ses devoirs, vous qui vivez et régnez avec le Père et le Saint-Esprit. Puis il dit, nous vous en supplions, Seigneur, regardez favorablement votre serviteur qui succombe sous l'infirmité de son corps et ranimez cette âme que vous avez créée, afin que, purifiée par l'épreuve, elle reconnaisse qu'elle ne doit son salut qu'au remède de votre grâce. Et enfin, la dernière prière. Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, qui répandez dans le corps des malades la grâce de vos bénédictions et qui entourez vos créatures des soins incessants de votre bonté, daignez vous rendre à l'invocation que nous faisons de votre saint nom et, après avoir arraché votre serviteur à la maladie et l'avoir rendu à la santé, de votre main relevez-le, affermissez-le par votre force, protégez par votre puissance et rendez-le à votre sainte Église après avoir comblé tous ses désirs. Ensuite, en général, s'il y a du temps, le prêtre, après avoir donné l'extrême onction, donne une indulgence plénière, qu'on appelle l'indulgence plénière à l'article de la mort. Les indulgences très importantes qui achèvent en quelque sorte le travail fait par l'extrême onction. Voilà, donc nous avons terminé ce traité de la sainte. Le traité, pardon, sur l'extrême onction. Et nous allons, si Dieu veut, la prochaine fois, donc commencer le traité suivant de saint Thomas. Donc il reste certains traités, on finit complètement la somme de saint Thomas bientôt. Donc il restera pour le supplément, nous avons fait la pénitence, nous l'avons terminée, elle avait été commencée à la fin de la tertia pars. Terminé avec le début du supplément, on a fait l'extrême onction. Il reste deux sacrements, sacrement de l'ordre, question 34 à 40, le sacrement de mariage, question 41 à 68, et enfin, le traité sur les fins dernières, qui termine complètement le travail de saint Thomas d'Aquin, question 69 à 99. Donc, la prochaine fois, nous commencerons le traité de l'ordre, question 34 à 40 du supplément de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Nous allons terminer par une prière. parce que je ne veux pas commencer, puisqu'il ne reste plus que 10 minutes pour atteindre l'heure, je ne veux pas commencer maintenant le sacrement de l'ordre, ce sera plus simple que je commence la prochaine fois. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Pitis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.